comble. Parce que c'est la première fois. Pour la première fois que je prêche, on prend un nouveau chant. L'église est refaite. C'est de la nouvelle moquette. Tout à l'heure, quand je suis rentré, je me suis dit, je vais peut-être enlever mes chaussures avant de monter. Donc je suis honoré, privilégié, gracié, je ne sais pas tous les mots, c'est vraiment énorme. Soyez tolérants, ce matin, depuis hier, je suis malade. Je suis assez bien malade et je dis merci à tous ceux qui ont prié pour moi ce matin, parce que je sais qu'on a prié pour moi ce matin, pour l'orateur. Et franchement, je pense que ça m'a porté, je le crois fermement, ça m'a aidé ce matin, parce que je vous assure que je suis bien collé, je suis bien malade. Donc voilà, c'est juste la petite parenthèse comme ça. Une autre chose, vous savez que je suis responsable de l'église d'Arras, qui a commencé là depuis le mois de mai, qui a commencé bien avant dans les réunions de prière. Et comme Chanel a pu le dire, voyez, il y a les cultes le dimanche après-midi. Et ça m'a fait sourire parce qu'aujourd'hui, dans l'histoire, ce jour aujourd'hui, le 21 septembre, je crois que c'était dans les années 1400 et des brouettes, il y a eu le traité d'Arras. Alors ça m'a fait sourire, j'ai vu ça comme un petit signe. Et bon, c'est personnel, quoi, bien sûr. Donc voilà, voilà. Donc je suis assez impressionné. J'ai déjà prêché devant à peu près la moitié de ça. Donc vous vous rendez compte, il y a 5 fois, 8 fois plus que d'habitude. Je vous demanderai d'être... C'est vrai, je vais me mettre comme ça. Et là, ça va être beaucoup plus facile. Comme ça, là, je vais mieux y arriver. Non, sincèrement, oui, voilà. Donc soyez tolérants, soyez indulgents, soyez comme Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler, par la grâce de Dieu, d'une chose et d'une personne, et c'est surtout par rapport au doute. Vous avez déjà remarqué que dans la vie chrétienne, on est souvent enclin au doute, alors qu'on a l'assurance, on a la foi. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment vous parler d'une personne dans la Bible qui est extraordinaire. Et cette personne, c'est Jean-Baptiste. Cette personne, c'est Jean-Baptiste, et cette personne est extraordinaire. C'est un prophète qui, dès sa naissance, était rempli. Parce que, on l'avait dit, l'ange est venu voir Zacharie, le père de Jean-Baptiste. L'ange est venu voir l'ange Gabriel pendant que Zacharie faisait son service. L'ange Gabriel vient et rentre dans le temple, il est dans le temple, et il dit à Zacharie, voici ta prière a été exaucée, ta femme qui est stérile et avancée en âge aura un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et Zacharie, qui c'est pas possible, il se disait, mais c'est pas possible, ma femme est avancée en âge, et elle est stérile, et moi aussi. Et l'ange lui dit, parce que tu n'as pas cru à ma parole, voici tu seras muet, jusqu'à ce que ces événements arrivent. Zacharie sortant du temple, il n'arrive plus à parler et tout ça, et les gens comprennent qu'il s'est passé quelque chose. Je vais un peu plus vite, j'accélère, et voici que Jean-Baptiste vient au monde. Et l'ange avait dit, il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère, dès le ventre de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit. Voici que Jean-Baptiste vient au monde et sa mère dit, voici quel est son nom, on l'appellera Jean. Ah, mais il n'y a personne de ta parenté qui s'appelle Jean, disaient les gens qui étaient là. Il n'y a personne qui s'appelle Jean, mais non, ce sera Jean. Alors on fit signe au père, on fit signe à Zacharie pour lui demander, mais quel sera son nom? Mais son nom sera Jean. Et au moment où il a voulu écrire, sa parole s'est ouverte et il a béni Dieu. Et les gens ont tombé dans la crainte. Voici comment est arrivée déjà la naissance de Jean-Baptiste. C'était quand même extraordinaire. Et sa vie a continué, la Bible n'en fait pas mention. Et son ministère commence, puisque le prophète Ésaïe avait dit que c'était lui qui serait la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, en dédroit son sentier. Si tu peux mettre. Donc la vie de Jean le Baptiste a été comme ça. Voici, ça c'est sa naissance, on a vu sa naissance, comment déjà il était arrivé. Et voici son ministère. Alors, c'est tout le chapitre de Matthieu 3 qui dit dans Jean comment c'était. En ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Si tu peux passer. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Je continue. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père » car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » Ça, c'est ce que disait Jean-Baptiste lors de son ministère. C'est pas n'importe qui, hein. Il faut voir qu'il était vu comme un grand, grand prophète. Jésus rendra témoignage de lui. Il dira, voici, de tout homme qui est né de femme, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'était pas rien. Jean-Baptiste était celui qui avait des disciples. On ne suit pas quelqu'un, on ne se met pas avec quelqu'un comme ça par plaisir. Si cette personne a des disciples avec lui, c'est qu'il était reconnu, c'est qu'il était imposant. Et voici ce qu'il dit aux pharisiens. Les pharisiens étaient un peu le gouvernement juif spirituel, si je puis dire. Enfin, c'était les gardiens de la loi de Moïse qui étaient là. Et face à ces gens, voici que Jean-Baptiste, face à ces pharisiens, voici que Jean-Baptiste dit « Mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Voici, c'est comme si il y avait le gouvernement, Manuel Valls et tout ça qui venait vers vous. Et d'un seul coup, vous lui dites « Mais race de vipère !» Vous auriez peut-être pas tout faux, mais en tout cas... Non, mais... Je plaisante, hein, c'est pas... Mais voyez, c'était pour dire l'assurance de cet homme. L'assurance de Jean le Baptiste. Vous imaginez ? L'assurance de Jean le Baptiste qui, devant le gouvernement, mais race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Ne dites pas que vous avez Abraham pour père, car je vous dis que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter une descendance à Abraham. Jamais on n'oserait parler comme ça. Et il était quand même extraordinaire. Il le disait lui-même. Et si on prend dans les autres évangiles, il faudrait voir, parce que la vie de Jean le Baptiste, mais c'était celui. Voici, il vient celui qui est apte. Il vient celui qui est après moi, qui était avant moi. Et je ne suis pas digne, en me baissant, de délier la courroie de ses sandales. Il annonce Jésus. Je vous assure, être Jean-Baptiste, il n'en a pas assuré. Il n'a pas annoncé trois messies. Il n'y a pas eu 40 messies d'annoncer, il n'y en a eu qu'un. Et ce privilège, cette responsabilité a été donnée à Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste annonce. Il annonce Jésus, il annonce le Messie. Lui qui était un homme assez élevé, qui avait des disciples, qui étaient reconnus comme importants. D'ailleurs, le roi Hérode en avait peur, parce qu'il savait que le peuple était pour lui. On comprendra plus tard, après qu'il était en prison et toutes ces choses. Et alors, voici que Jean dit, non, je ne suis pas le Christ. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voyez cette assurance qu'il a, Jean. Il a une assurance comme ça. Il sait, il est ferme, il sait qui il est. Mais plus encore, il sait qui il annonce. Il sait. Et voyant venir à son baptême, Jésus, peut-être tu peux le mettre, oui. Non, c'est pas ça là. C'est pas ça. C'est pas ça. Je t'ai pas donné, c'est rien. C'est de ma faute. C'est moi, excuse-moi, c'est pas ça, oui. Dès que Jésus vient à son baptême, et selon les évangiles, voici Jean qui baptisait le baptême de repentance, il voit Jésus arriver au loin, et il va dire cette phrase qui est assez... qui est devenu culte, hein, et surtout dans les milieux catholiques, on l'entend très souvent. On voit, cette phrase a une importance, elle n'est pas anodine. Voici que Jean vient et voit Jésus arrivant au loin. venir à son baptême et il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Tout le monde connaît cette phrase. C'est Jean le Baptiste qui l'a dit. Et il ne le dit pas comme ça. « Oh tiens, ça va faire bien, il y a du monde, je vais le dire. » Et comme ça, on va rigoler. Ouh, on va dire. Non, 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 les gens savaient déjà que Jean le Baptiste était important. Il avait des disciples, mais lui était en train d'annoncer quelqu'un de plus grand que lui. Ouh. Alors déjà, lui, il est prophète. Déjà, lui, il est vu comme quelqu'un de grand. Et il se dit que lui, il n'est pas digne en se baissant de délier la courroie des sandales de celui qui l'annonce. Voyez à quel point Jean le Baptiste était grand et à la fois humble. Bon, il annonce Jésus en disant cette phrase. « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Juste une petite parenthèse. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu demandait en sacrifice d'expiation, c'est-à-dire un sacrifice pour pardonner les péchés du peuple. Et il demandait un animal, Dieu exigeait, il disait, pour le sacrifice d'expiation, il demandait un animal sans tache, pur, sans défaut, sans tache ni ride. Il fallait que cet animal soit parfait. Et là, pour tous ces gens qui voient, toutes ces personnes qui voient Jean le Baptiste comme un grand prophète, voici que Jean vient d'annoncer, là, voici l'agneau de Dieu. Alors il faut bien comprendre que si Jean est en train de dire ça, voici l'agneau de Dieu, il faut voir l'impact que ça a dans les cœurs de ceux qui sont présents. L'agneau de Dieu, si c'est celui qui est choisi par Dieu, si Dieu déjà dans l'Ancien Testament était exigeant envers les gens pour justement qu'il donne le meilleur animal, qu'il soit sans tache, sans défaut pour le sacrifice des péchés, pour le pardon des péchés, combien si c'est Dieu qui l'a choisi? Combien si c'est Dieu, comme le disait Jean le Baptiste, voici l'agneau de Dieu. C'est le sacrifice que Dieu a choisi. C'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Combien plus est, si Dieu est exigeant envers les personnes, le peuple hébraïque dans l'Ancien Testament, combien plus est, on peut être sûr et assuré que ce Jésus qui vient est parfait. Rien que pour ça. Je ferme la parenthèse, c'était juste pour dire. Et voici que Jésus arrive au baptême de Jean. Et Jean, gardez bien ça en tête, Jean est quelqu'un de très important, il a des disciples. Et Jésus arrive à son baptême et Jean va lui dire, mais c'est toi qui viens à moi et c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus lui répondra, laisse, il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Et Jésus se fait baptiser, on baptise Jésus, Jean le baptise, et de là il vit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Mais on lui avait dit à Jean, on lui avait dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre, c'est lui le Messie. Alors là, il n'y a plus de doute. Mais alors que l'Esprit Saint vient de descendre sur Jésus comme une colombe, une voix se fit entendre des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, dit Dieu. » Il faut se mettre un peu à la place de Jean le Baptiste, son annonce, sa naissance, comment il est venu, son père qui était muet, les gens qui ont prophétisé sur lui, lui qui est devenu prophète, lui qui parlait avec une assurance telle que pouvant répondre au gouvernement juif en disant « race de vipères ». Lui, avec cette importance, qui pouvait annoncer comme ça « voici l'agneau de Dieu ». Voyez, il avait des disciples. Vraiment, j'insiste sur le point, combien Jean était important, combien Jean s'est abaissé. Il a vu de ses yeux le Saint-Esprit descendre et il a entendu la voix qui s'est fait entendre des cieux. Il a entendu la voix de Dieu qui a dit « voici ». Franchement, je pense que si on avait vécu ce que Jean-Baptiste avait vécu à ce moment-là, on aurait été des élites, on aurait été impressionnants. C'est quand même pas rien. Une voix qui se fait entendre des cieux, c'est quand même pas rien. Le Saint-Esprit, quand vous voyez le Saint-Esprit descendre sur quelqu'un, ce n'est pas rien. C'est pas anodin, c'est pas quelque chose. Si j'ai des disciples à ma portée, mais je suis quelqu'un d'important. Pourtant, il y a une chose qui dans la vie de Jean-Baptiste me choque. Une chose. Lui, ce grand homme de Dieu, ce prophète dont Jésus avait rendu témoignage en disant « De tout homme qui est né d'une femme, il n'y en a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. » C'est choquant. Parce que il y a une chose qui me gêne. Après toutes ces annonces, après tout ce que Jean a vécu, après ce qu'il a vu, si tu veux bien mettre le verset, Gaël, Matthieu 11, au Matthieu 11, versets 1 à 6. On le retrouve dans d'autres évangiles. Vous pouvez retrouver la vie de Jean le Baptiste. Et là, ça m'a perturbé. Me dit, mais ce Jean-Baptiste, voici, lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et là vraiment ça m'interpelle. Parce que si je me mets à la place de Jean le Baptiste, lui qui a vécu ça, si mon père avait été muet tout le temps de la grossesse de ma mère, pour moi, si... J'avais entendu la voix de Dieu, si j'avais vu l'Esprit Saint descendre, si j'avais eu cette assurance pour parler aux pharisiens, si j'avais tout ça, me voici, c'est lui-même qui dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Tout le monde connaît la vie de Jean le Baptiste. On connaît bien la vie de Jean le Baptiste, mais ce passage m'a perturbé. Jean le Baptiste se retrouve en prison à cause de Hérodiade, la femme de Philippe. Elle était femme. C'était la femme de Philippe. Et voici que elle est partie fricoter avec le roi Hérode. Bon, elle fait ce qui est pas bien. Voilà quoi. Elle était avec le roi. Il était tétrarque. Enfin bref, il était avec Philippe et il est parti. Elle est partie avec Hérode. Chose qui est de l'adultère. Et Jean le Baptiste a dénoncé ça. Et de là, ça n'a pas plu à Hérodiade. Et Hérodiade le fit enfermer. Par le gouvernement, par l'autorité d'Hérode. Et par la suite, Salomé, la fille d'Hérodiade, se mit à danser pour le roi Hérode. Et comme elle lui plut, il lui dit, voici, demande-moi ce que tu veux, ne serait-ce que la moitié de mon royaume, fût-ce la moitié de mon royaume. Et elle alla voir sa mère, elle lui dit, mais qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux lui demander? Et lui dit, demande-lui la tête de Jean le Baptiste. Sa mère dit à Salomé, demande-lui la tête de Jean le Baptiste maintenant sur un plateau. Et voici que le roi, à cause des invités, lui, il avait peur. Il ne voulait pas parce qu'il tenait Jean le Baptiste pour prophète, le roi lui-même. Mais voici que là, il s'en va à cause des invités, parce qu'il est soumis à sa parole, il s'en va faire décapiter Jean dans sa prison et donner la tête de Jean le Baptiste à Salomé. Ça, c'est la vie de Jean le Baptiste. Bon. Au moins, j'ai bouclé la boucle. Bref. Mais c'est ce passage qui m'intéresse plus. Après ce que Jean le Baptiste a vécu, voici ce qu'il dit. Il est dans sa prison, il se retrouve enfermé dans sa prison. Et alors qu'il est dans sa prison, voici ce qu'il va dire. Il envoie un de ses disciples, il apprend ce qui se passe sur la vie de Jésus. Il apprend. Et là, il se dit, mais es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Il y a quand même, tout le monde aurait pu dire ça, mais pas lui. C'est pas possible. Tout le monde aurait pu dire ça, mais pas lui. C'est lui qui a annoncé, c'est lui qui a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». C'est lui qui a dit ces choses, « Il vient après moi, celui qui était avant moi, et je ne suis pas digne ». C'est lui qui dit ça. Et voici qu'une fois qu'il est attaqué, une fois que sa vie personnelle est attaquée, qu'il est dans sa prison, il se demande, et le doute vient. Et là, il commence à douter. Et il envoie ses disciples et il dit « Es-tu celui qui doit venir ?» Ou devons-nous en attendre un autre? Jésus aurait pu lui répondre, mais enfin Jean, c'est toi qui m'as baptisé. C'est toi qui as vu le Saint-Esprit descendre. C'est toi qui a dit aux gens, voici, j'étais l'agneau de Dieu. Jésus aurait pu lui parler comme ça. Il aurait pu dire à ses disciples, allez dire à Jean, enfin, c'est toi qui m'as baptisé. Non. Jésus va juste répondre, allez rapporter à Jean ce que vous voyez, ce que vous entendez. Allez rapporter, les aveugles voient, les boiteux marchent, les morts ressuscitent, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, j'en oublie peut-être. Et c'est là où je me dis, mais Seigneur, est-ce que nous, des fois, on n'est pas un peu comme ça aussi? Est-ce que finalement, nous, des fois, on ne ressemble pas un peu à ce Jean-Baptiste? Nous qui avons goûté la puissance de Dieu, nous qui avons vu sa main agir, nous qui avons été là, pouvant avec assurance l'annoncer, pouvant avec assurance le prier, le louer, étant sûr de cela, il est Dieu, étant baptisé au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je proclame, oui, c'est lui mon sauveur. Mais quand on a un problème, quand notre vie est attaquée, quand notre personne est attaquée, est-ce qu'on n'est pas un petit peu comme Jean? Est-ce qu'on ne se retrouve pas, alors qu'on a eu cette assurance, on a des témoignages, on a vu des belles choses arriver, qu'on ne peut pas renier, ce n'est pas possible. Est-ce que l'on n'est pas un peu comme ce Jean-Baptiste qui se retrouve dans cette prison? Dans cette prison. Mais à l'inverse de lui, c'est vrai, peut-être que nous, notre prison, elle n'est pas faite de barreaux, elle n'est pas faite de murs. Mais c'est la prison du raisonnement, c'est la prison de l'incrédulité, du doute, la prison de toutes ces choses qui viennent nous enfermer pour des questions, des fois des questions matérielles, des questions relationnelles, des questions d'avenir, des questions de tout, familiales, des questions de toutes choses par rapport aux finances, par rapport à toutes choses. Nous avons vu la grâce de Dieu, nous avons vu sa main agir. Mais une fois qu'on est dans la difficulté, on est un peu comme Jean-Baptiste dans cette prison. Et on commence à poser des questions du genre « pourquoi ?» On commence à poser des questions du genre « pourquoi ?» Et puis on prie un peu, mais on ne continue pas vraiment. Et on demande au Seigneur « mais c'est toi qui vas me sauver ?» On a cette question qui vient et qui dit « mais Seigneur, est-ce toi qui dois venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et je ne vois pas vraiment la différence entre ce que Jean-Baptiste a vécu. Et je dis merci Seigneur, parce que si ça avait été le contraire, si Jean-Baptiste avait été dans sa prison, et que de sa prison il était sorti, qu'il avait eu des disciples, et qu'en ayant eu des disciples, il aurait eu l'assurance, on aurait pu dire oui, il s'est édifié, oui, il a monté, oui, il s'est élevé, oui. Mais là, je dis merci Seigneur, parce que ça a été le contraire. Jésus qui témoignait de lui qu'il était l'un des plus grands, de tout homme né de femme, il n'en a pas paru de plus grand depuis Jean-Baptiste. Et voici que cet homme, arrivé dans sa prison, vient à douter, vient à dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Aujourd'hui, j'aimerais vraiment que tu prennes attention à ça, que tu prennes garde à ça, parce que tu aies cette assurance, comme au début, comme Jean-Baptiste l'avait, que tu aies cette assurance pour parler au gouvernement juif comme ça, avec force, avec zèle, avec foi, parce que, tu es brûlant, tu as le feu, oui! Ou que tu es dans ta prison, dans ton raisonnement, dans tes pensées captives, que tu es si froid, que tu commences à douter, que tu as laissé grandir l'incrédulité. Moi, je vais te dire une chose, juste une chose, c'est que Jésus ne change pas. Jésus n'a pas changé. Jésus ne va pas dire, je t'ai porté, tu as vu ta vie changer, tu as vu les bonnes choses qui te sont arrivées. Il va dire ici à Jean, va dire à Jean ce que vous voyez et vous entendez. Jésus ne change pas. Jésus n'attend pas que Jésus n'attend pas que ton état soit fort ou faible pour que lui soit fort ou faible. Jésus, il est. Stop. Jésus est. Peut-être tu te demandes, mais Seigneur, où suis-je? Qui suis-je? Qu'est-ce que tu te soucies de moi? Peut-être tu t'es posé la question, mais pourquoi? Peut-être tu t'es dit, Dieu m'a oublié. Dieu ne m'entend pas. J'ai l'impression de me battre dans le vent, qu'il n'entend plus ma voix, qu'il ne me voit plus. Peut-être que tu laisses grandir cette incrédulité, ce doute en toi. Et que tu ne vois pas plus loin que le bout de ton nez, ton avenir. Fais ce qui est à ta portée. Fais vraiment ce qui est à ta portée. Et laisse Dieu faire ce qui est à la sienne. Laisse faire Dieu ce qui est à la sienne. Devant les épreuves, Dieu a dit à Moïse, va et lève ton bâton face à la mer. Je vous assure, c'est donné à tout le monde. C'est donné à tout le monde de le faire. Rien de vous. À personne est empêché d'aller jusqu'à la mer, de prendre un bâton et de le lever. mais c'est la foi qui va faire. C'est pas Moïse qui a ouvert la mer, mais Moïse a fait le mouvement. Moïse a fait ce qui était à sa portée, et Dieu a fait ce qui était à la sienne. Et la mer s'est ouverte. Aujourd'hui, tu te laisses enfermer peut-être dans ta prison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te laisses enfermer comme ça, dans ton raisonnement. Des prières qui n'ont pas été exaucées, qui sont tombées aux oubliettes. Des prières que tu as faites dont tu n'as pas vu l'accomplissement. Ou peut-être qui ont été répondues, mais tu n'as pas été capable d'entendre. Tu es comme ce Jean-Baptiste. Et tu commences à douter, tu commences à avoir l'incrédulité. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Tu te poses les questions. Et finalement, tu n'es pas mieux que Marthe et Marie, qui devant Jésus disaient, mais Seigneur, cela fait déjà 4 jours qu'il est enfermé. Cela fait déjà 4 jours qu'il est enseveli. Et Jésus de dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne te laisse pas enfermer dans ta prison, parce que Dieu n'a pas changé. Ne crois pas que ta prière est passée inaperçue aux yeux de Dieu. Ne crois pas que ta vie est indifférente aux yeux de Dieu. Dieu prend soin de son enfant. Dieu prend soin de ses enfants. Sur vous tous, sans exception, il ne voit pas ni toi, ni quoi que ce soit. Il voit le sang de son Fils. À partir du moment où, comme là, nous l'avons pu le partager, nous avons pris le sang. Voici, prenez et buvez, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous. N'est-ce pas ce qu'il dit? N'est-ce pas ce qu'il dit? Le sang répandu pour vous. Et tu prends le sang de la nouvelle alliance, faisant partie des enfants de Dieu, et tu te réjouis parce que tu es enfant de Dieu. Et là, quand l'épreuve vient, ah c'est sûr, par ici, dans nos pays, par ici, nous n'avons pas la persécution du christianisme. On ressemble un peu moins à Pierre. Parce que ce qui est arrivé à Jean, c'est ce qui arrive à nos corps, à nous-mêmes, à notre personne. Ce qui est arrivé à Pierre, c'est la persécution qui est faite par rapport au christianisme. Quand Pierre dirait, mais Seigneur, je te suivrai partout, jusqu'en prison et même jusqu'à la mort. Mais voici que Jésus le reprend et dit, mais Pierre, avant même que le coq ne chante, par 3 fois tu m'auras renié. Par 3 fois tu diras que tu ne me connais pas. Et voici que d'un seul coup, on saisit Jésus, on le bat, on le frappe, on le mène devant le tribunal. Et les gens disent, mais toi, je te connais, tu étais avec Jésus. Et Pierre répond, non, c'est pas vrai. Non, je n'y étais pas. Ça, c'est une chose que nous vivons pas. La persécution. Mais ce qui arrive à Pierre comme ce qui arrive à Jean, c'est très semblable. Que l'on s'attaque à ta personne, ou que l'on s'attaque à la personne de Jésus-Christ, au christianisme, attention, car tu peux avoir l'une de ces réactions-là. Tu es comme Pierre, qui commence à douter, et qui, oh, voyant le christianisme, comme s'il était affaibli, voici, il commence à se renier, il commence à se reculer. Ou à l'inverse, quand on t'attaque à ta personne, que tu es là et que tu commences à dire, mais mince, est-ce que c'est vraiment Jésus qui sauve ? Une chose, il ne change pas. Il ne change pas. Sa gloire n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Il n'y a pas d'ombre de variation dans son amour. Rien. Si tu te laisses enfermer, c'est toi qui te laisses enfermer. Sa main est là. Sa main est là. Il n'y a pas. C'est pas possible. Si aujourd'hui tu as cette chose, si aujourd'hui tu as commencé à douter, repens-toi. Se repentir, ça ne veut pas dire ça y est, j'ai vraiment fait le mal ou quoi. Non, 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 non. C'est commence. En hébreu, je ne sais plus le mot. J'aurais pu vous dire le mot en hébreu, de repentir. Selon le grec, ça veut dire changer sa manière de penser, mais je ne sais plus le mot non plus. Metanoïa, oui, en grec. Mais en hébreu. En hébreu, le mot veut dire, la traduction littérale veut dire faire demi-tour. Faire demi-tour. Alors, si oui, si tu as commencé à douter de Dieu, si tu t'es laissé enfermer par ta situation, par ton avenir, par tes finances, par tes choses, parce que tu vois pas le bout, parce que, lui, il change pas. Repens-toi, fais demi-tour et espère en ton Dieu. Espère. J'aimais bien David quand il disait, il y avait deux phrases de David, le psalmiste. Il disait, pourquoi t'as battu mon âme? Il se parle à lui-même. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en ton Dieu, car tu le loueras encore. Espère en ton Dieu. Et il disait cette autre phrase, ah, si je n'étais pas sûr de voir les bontés de l'Éternel sur la terre des vivants. David avait cette assurance que Dieu ne l'abandonnerait pas. Et juste pour terminer, c'est là où je voulais qu'on lise un verset. Parce que peut-être tu as cru que Dieu t'avait oublié. Peut-être tu as cru que Dieu ne pensait pas à toi. Peut-être tu as cru que ta prière n'avait pas assez d'impact. Peut-être tu t'es dit que ben non, il y avait plus important que moi. Que finalement celui qui était sur l'estrade avait plus à même d'être écouté. Non, ça c'est faux. Tous ont la même part d'héritage. Tous. Tu es co-héritier avec Christ. C'est pas toi ou toi, tu auras une meilleure part. Non. Tu es co-héritier avec Christ. Tous. Vous connaissez que dans l'Ancien Testament, vous savez que dans l'Ancien Testament, le fils aîné avait la double part. Vous le savez? Dans l'Ancien Testament, le fils aîné, le premier, avait la double part en ce qui concerne l'héritage. Et donc, les enfants qui venaient après, eux, avaient là, ce qui reste, hein, forcément. Mais le fils aîné avait double part. Mais ça, c'était l'Ancien Testament. De nouveau, vous n'avez qu'à lire Hébreux 12. Lisez Hébreux 12 et vous comprendrez. Tous. Nous avons le droit à la même part d'héritage. Tous. Nous sommes considérés comme fils et filles aînées. Il n'y a pas de moindre importance. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu n'a pas arrêté de te voir. Dieu n'a pas arrêté. Reprends confiance. Parce que Dieu ne t'abandonnera pas, lui. Et c'est ça où je voulais un peu terminer. Dans Ésaïe 40, merci Gaël, c'est que Dieu s'adresse à son peuple. Dieu s'adresse à son peuple. Ici, Jacob, c'est la personne. Ici, Israël, c'est l'Église. Et voici ce qu'il dit. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu? Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voici ce que Dieu promet pour toi. Alors relève ta tête, ouvre les yeux, parce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Tu n'es pas enfant de Dieu juste pour te lamenter. Tu es enfant de Dieu parce que tu as gagné. Mets-toi ça dans la tête. Si ta situation n'est pas comme toi tu le souhaites, si ta situation à l'heure d'aujourd'hui n'est pas comme toi tu le veux, dis-toi que lui, il t'écoute. Si seulement vous aviez la foi comme un grain de sève, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et elle le ferait. Ne soyez pas incrédule. Ne croyez pas que Dieu vous a oublié. Ne voyez pas vos problèmes vous surmener. Ne vous laissez pas enfermer par vos problèmes. Ne vous laissez pas mettre en prison par votre situation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans l'avenir, financière, matérielle, relationnelle, tout, travail, peu importe, car Dieu a la solution. C'est une réalité, c'est comme ça. Il a dit, Jésus dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Vous ne pouvez même pas rendre un cheveu blanc sur votre tête. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Pourtant, je vous le dis, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père qui est dans les cieux. Vous valez beaucoup plus que beaucoup de passereaux. Alors crois en Dieu. Crois-le, parce que lui, il est là, il est prêt, il attend que tu te tournes vers lui, que tu lui demandes sa main, que tu le sauves, qu'il te sauve, pardon, et qu'il vienne pour ta situation, pour tout ce que tu as, pour le doute. Dieu n'abandonne pas, on l'a lu, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. Amen. Alors, si tu es dans cette situation aujourd'hui, si ta situation a pris le dessus sur toi, si tu t'es laissé enfermer, on va vraiment tous se lever, juste tous se lever. Et je ne vais pas demander, à ce qu'on s'avance ou à ce que chacun sait, chacun connaît son cœur, chacun sait ce qu'il a. C'est peut-être une prière qui est tombée aux oubliettes. C'est peut-être quelque chose qui te dit, mince, si seulement j'avais eu ça, j'aurais pu croire. Dis-moi que je te dis juste une chose, Dieu n'a pas oublié. Dieu n'a pas oublié. Et de là où tu es, tu vois, tu connais ton cœur, tu sais tes prières, tu sais ce que tu aurais souhaité, tu sais ce que tu voulais, tu sais ton problème, tu sais mieux que quiconque ton problème, mais Dieu te voit. Tu sais ce que tu désires, quel était ton idéal de vie, qu'est-ce que tu voulais dans ta vie. Et là où tu es, là où tu te trouves, voici, tu vas dans ton cœur. Et si tu as laissé cette prière tomber à l'eau, et si tu as laissé ta foi diminuer, alors de là où tu es, tu vas demander pardon au Seigneur. Chacun, c'est personnel. C'est pas le but de se démontrer, de montrer qu'on est là. Non. C'est entre toi et Dieu, c'est personnel. C'est de revenir à lui. Là où tu es, on va prier ainsi. Alors oui, prie Dieu et demande-lui pardon si tu dois, si tu as eu des prières comme ça qui sont restées aux oubliettes, si ta situation est trop forte et trop grande pour toi. Demande-lui. Il y a des choses, il y a des idéaux, il y a des choses que tu aurais souhaitées, il y a des choses que tu as demandées à Dieu qui ne sont pas arrivées. Tu t'es dit, mais pourquoi Seigneur? Pourquoi cette situation? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais là, j'ai rien demandé de plus, Seigneur mon Dieu, pourquoi j'ai pas le droit? Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-toi que le Seigneur a entendu ta voix, et même plus encore, il a entendu ton cœur, et même plus encore, Dieu entend tes larmes. Crois-le, que Dieu ne t'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Il a vu ton cœur. Il est dit que tout est à nu et à découvert devant lui. Oh, si seulement tu croyais, n'importune plus le maître, et c'est ce qui t'est arrivé. De même que Jaïrus venant devant la maison, alors qu'il pressait Jésus, mais viens, il disait, mais viens Seigneur, il le pressait, et voici qu'il arrive devant sa maison, et ses serviteurs sortent et lui disent, n'importune plus le maître, et c'est ce qui t'est arrivé. Tu as écouté cette voix qui disait n'importune plus le maître, et alors tu es têtu, tu as fait silence, tu as laissé, tu t'es contenté, tu as commencé à vivre comme ça, d'une manière où tu t'es laissé aller. Tu as perdu cette foi, ce feu. Oh, n'importune plus le maître, et tu as écouté, alors que Jésus disait ne crains pas, crois seulement. C'est ce qu'il disait. Ne crains pas, crois seulement. N'écoute pas ce que les voix extérieures peuvent dire. N'écoute pas ce que les autres peuvent dire. Écoute ton cœur, parce que Dieu est là. Dieu est là, près de toi, dans ta bouche, et il veut parler. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce et nous te disons merci Seigneur mon Dieu parce que tu n'as pas changé Père, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Dieu et je te loue de ce que tu es, de ce que tu fais Seigneur mon Dieu. Tu vois, tu nous as pas appelés, tu as pas mis ta parole dans nos cœurs Seigneur mon Dieu. Tu n'as pas fait qu'on vienne aujourd'hui Seigneur par hasard, juste comme ça Seigneur pour dire oui, je crois. Non, ma foi ne tombe pas en défaillance Seigneur mon Dieu parce que je veux m'appuyer sur toi, je veux me rappeler que toi tu l'as fait Seigneur mon Dieu. Ma prison m'a enfermé, toutes ces choses, mon raisonnement m'a enfermé, mais aujourd'hui je dis Seigneur, je vois plus loin que la montagne, je te vois toi Seigneur mon Dieu, et toi, en toi est la solution, parce que là où il y a ta présence, il y a la vie, là où il y a ta présence, il y a la guérison, là où il y a ta présence Seigneur mon Dieu, il y a la solution Père. Oh Dieu, je croyais que tu m'avais abandonné, je croyais que tu m'avais oublié, je croyais que mon droit passait inaperçu devant tes yeux. Mais aujourd'hui, Seigneur, je me rends compte que non, tu étais toujours là. De même que tu l'as dit, je ne suis pas qu'un Dieu de près, je suis aussi qu'un Dieu de loin. Et je te loue, Seigneur, parce que tu ne m'as pas oublié. Je te loue, Seigneur, parce que tu n'as pas arrêté, Seigneur, de veiller sur moi. Parce que tu as vu en moi, Seigneur, mon Dieu, le sang de ton Fils. Tu as vu en moi, Seigneur, que je t'appartenais. Oh Dieu, tu élèveras mon droit comme le soleil, Seigneur, mon Dieu. Et même plus encore, Tu élèveras mon droit comme le soleil quand il pointe à son midi, dit ta parole. Oh Dieu, Père, je te loue, je te rends grâce, comme nous avons pu le lire, Seigneur. Tu augmentes la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Voici, tu renouvelles les forces et on prend le vol comme les aigles. On court et on ne se lasse point. On marche et on ne se fatigue point. Seigneur, mon Dieu, j'espérerai en toi, Seigneur, parce que ma cause et mon droit n'est pas indifférent, Seigneur, de ce que toi tu veux. Oh Dieu de gloire, je ne veux plus écouter les ennemis. Je ne veux plus écouter les uns et les autres qui me disent d'arrêter, d'abandonner ou qui, dans la fatigue, dans le doute, l'ennemi qui vient et qui me dit arrête d'importuner le maître. Non, Seigneur mon Dieu, je dis, en Jésus je triompherai, en Dieu je triompherai, voici l'Éternel est vivant, je triompherai. Oh Dieu de gloire, je te loue, je te rends grâce. Aujourd'hui, là où tu es, demande-lui, dis Seigneur, pardon, parce qu'en un instant, en une fraction de seconde, j'ai arrêté de croire, j'ai laissé l'incrédulité grandir, j'ai laissé le doute gagner sur moi. Mais dis-lui, Seigneur, je te demande pardon, parce que toi, tu me connais mieux que moi-même, je me connais. Et comme tu le disais dans ta parole, si mon cœur me condamne, toi, tu es plus grand que mon cœur. Oh Dieu, je te loue de ce que tu fais et de ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ, Amen.